des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des auteurs francophones les plus lus, les plus représentés dans le monde. Ses romans atteignent des tirages vertigineux, entre 200 000 exemplaires pour l'Évangile selon Pilate, 400 000 exemplaires vendus pour Oscar et la Dame Rose. On l'étudie dans les lycées. Il se publie d'ailleurs des exégèses tout à fait érudites de son œuvre et une étude américaine de Publishing Trends le place sur la liste des 15 écrivains les plus lus dans le monde. Et Éric-Emmanuel Schmitt, qui est notre invité aujourd'hui, est le seul auteur cité dans cette étude américaine. Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Éric-Emmanuel Schmitt, le public, lui, ne s'est jamais trompé. Aujourd'hui, vos pièces sont jouées dans le monde entier, votre œuvre est traduite dans une vingtaine de langues, vos personnages s'expriment même en néerlandais, suédois, chinois, russe, japonais. L'Académie française, je crois que c'était en l'année 2000, vous avez remis le Grand Prix du théâtre pour l'ensemble de votre œuvre.
Oui, c'était une belle émotion sous la coupole de recevoir ce prix du théâtre, qui est quand même un prix important. Et puis c'était une émotion que je pouvais partager avec mon père. Il est fan de l'Académie française, comme certains sont fans de Johnny Hallyday ou de Madonna. Il a toujours voué un culte aux petits hommes verts, comme il dit. Et il essaye d'avoir de l'humour par rapport à ce qu'il passionne. Mais voilà, le fait de pouvoir pénétrer avec son fils sous cette coupole et de me voir recevoir ce prix a été un grand bonheur pour lui. Et vous savez ce que c'est que les bonheurs. Quand on peut comme ça les partager, c'est bon.
La reconnaissance ?
La reconnaissance, elle est importante parce que c'était René Raymond, qui était un homme que j'admirais beaucoup, qui était, je pense, à l'origine de ce prix. Et ça me touchait qu'un intellectuel de cette valeur, qui par ailleurs avait des liens profonds avec le christianisme, comme je crois moi aussi, et pensait que mon œuvre de théâtre était importante et qu'il fallait la récompenser.
Un critique littéraire a écrit, vous concernant, « Lorsqu'on publia sa première pièce de théâtre, La Nuit de Valogne, la critique unanime salua la naissance d'un auteur. » C'était en 1991. Deux ans plus tard, l'ancien professeur de philosophie remportait trois Molières avec Le Visiteur, stupéfiante confrontation entre Freud et Dieu, suivit un premier roman, La secte des égoïstes, qui acheva de convaincre les sceptiques. Cet écrivain-là savait tout faire, raconter des histoires et faire passer des idées. Alors, on décida qu'il agaçait. Schmitt est un intello populaire, lâcha un critique littéraire au cours d'une émission de radio non moins populaire. Je ne sais pas si vous avez cette émission en tête. Et si ce jugement à l'emporte-pièce était, dit ce même critique, au contraire un compliment, Éric-Emmanuel Schmitt. Si Éric-Emmanuel Schmitt, c'était notre Diderot au XXIe siècle, un sérieux penseur qui ne se prend pas au sérieux. C'est un éloge magnifique.
C'est un éloge magnifique, comme vous dites. Je suis forcément obligé de rester à distance de cet éloge parce que je voudrais le croire et je me trouverais ridicule aussi d'y croire. Mais bien sûr, il fait appel à Diderot qui est mon maître, puisque j'ai écrit mon doctorat sur Diderot. Et puis, c'est pour moi l'écrivain fondateur, c'est-à-dire celui qui m'a appris à être libre, celui qui m'a appris à penser par moi-même, celui qui m'a montré le chemin dans le sens où on peut faire de la philosophie dans des formes non philosophiques, c'est-à-dire en racontant des anecdotes, en racontant des contes, en faisant des pièces de théâtre, en écrivant des romans. Diderot, c'est l'esprit non conventionnel, c'est l'esprit libre. Et c'est aussi un homme qui sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. J'espère y arriver de temps en temps, être comme ça, c'est-à-dire faire mon travail avec le plus grand sérieux, la plus grande attention, et en même temps ne pas me prendre au sérieux et estimer que certaines choses me sont dues, etc. Voilà, Diderot, c'est un engagement, c'est une vibration, c'est un enthousiasme, c'est un désir, c'est quelqu'un qui pense qu'un livre, c'est un germe qu'on sème et qui va se développer dans l'esprit du lecteur et que c'est ce qui se passe dans l'esprit du lecteur qui est important. Voilà, c'est mon modèle d'écrivain.
Pour remonter de façon chronologique dans le temps, normalien, agrégé de philosophie, mais votre rêve était de devenir musicien.
Oui, je crois que j'ai toujours la nostalgie du musicien que je n'ai pas été. Et de temps en temps, même, je me raconte que je pourrais encore l'être. Ça commence à devenir un peu ridicule à 49 ans, mais en même temps, je me retrouve très souvent au-dessus de mon piano en train de jouer et d'improviser. « Oui, j'ai pensé pendant toute mon adolescence que mon destin, c'était la musique. Parce que j'ai toujours écouté beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique, parce que la musique, c'est ma vie spirituelle, en fait. Ma vie intérieure est rythmée, à des effusions qui sont musicales. Je pense que la musique est ce qui est le plus proche de mon émotion fondamentale. Et en même temps, je ne suis pas parvenu à être le musicien que je voulais être, puisque j'ai appris la musique très sérieusement au conservatoire. Et après, je me suis mis à composer quand j'étais adolescent. Et c'était charmant, c'était joli. Mais je me rendais bien compte que je n'avais pas d'imagination musicale. Alors que d'un autre côté, chaque fois que je rendais un devoir, une copie, une rédaction, j'avais un corps enseignant qui était absolument enthousiaste et que dès l'âge de 16 ans, j'ai écrit ma première pièce au lycée et qui aussi déclencha un enthousiasme. Donc, je me rendais compte que ce que moi, je méprisais, c'est-à-dire ma capacité d'écrire, les autres ne la méprisaient pas du tout et m'applaudissaient pour. Alors que ce que moi, je valorisais, c'est-à-dire mes efforts sur la musique, déclenchait moins d'enthousiasme chez les autres. Donc, au bout d'un temps, on tend l'oreille et on accepte que les autres vous diagnostiquent, c'est-à-dire vous disent « je crois que tu es plutôt fait pour ça que pour ça ».
Une vibration interne, personnelle, mais en communication avec l'autre.
Voilà, j'essaye de garder toujours les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. D'ailleurs, tout mon théâtre est un théâtre d'une porte qui s'ouvre et d'un visiteur qui rentre et qui change tout. C'est-à-dire que pour moi, la relation à l'autre est essentielle. Quand j'écris, je pense à l'autre, à celui qui va me lire, ou au spectateur, à cette espèce de quatrième mur invisible, mais palpable, mais émotif, mais sensible, qu'est le public. Pour moi, l'écriture, ce n'est pas une purge, ce n'est pas quelque chose dont je me débarrasse, ce n'est pas quelque chose que je fais pour moi, c'est véritablement une parole adressée. Pour moi, toute écriture est l'être adressé aux autres.
On a prononcé les mots de philosophie, les mots de littérature, théâtre, musique, on va le comprendre tout au long de cette émission, et les auditeurs le savent déjà, vous n'êtes pas l'homme d'une seule passion, Éric-Emmanuel Schmitt. Et vous dites que toutes ces énergies sont différentes, mais c'est toujours l'écriture, c'est toujours la vibration, toujours l'émotion. Et alors, j'ai essayé de ne pas vous mettre dans une rage folle, parce que j'ai lu, en préparant cette émission, que des personnes avaient réussi à vous mettre dans une rage folle quand les gens vous disaient « vous êtes un vrai écrivain » et que vous auriez dû écrire autre chose que du théâtre. Alors ça, vous refusez absolument la distinction entre ces deux techniques, ces énergies. Vous dites que finalement, l'énergie est la même.
Oui, ce que je refuse, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire considérer que l'art noble, c'est le roman et que le théâtre est un art moins noble. Parce que d'abord, cette hiérarchie, elle est celle d'aujourd'hui. Et je dirais qu'elle commence dans les années 1840-1850. Mais avant l'époque romantique et pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'art noble, c'était la scène, c'était le théâtre. Un écrivain devait être un écrivain dramatique. Voltaire pensait qu'il resterait dans l'histoire par ses tragédies. Balzac lui-même est mort en pensant qu'il avait raté sa vie parce qu'il n'avait pas connu le succès dramatique. Dieu sait qu'il ne l'avait pas raté sa vie, en tout cas pas son œuvre. Mais voilà, pendant des siècles, il y a eu une autre hiérarchie qui mettait le théâtre devant. Alors en fait, moi, ce que je refuse, c'est le principe de la hiérarchie. C'est-à-dire, aucun art n'est plus noble qu'un autre. Dans tous les cas, il s'agit vraiment d'écriture. Écrire pour le théâtre avec l'ambition de faire vivre des personnages, mais aussi de provoquer la réflexion, de faire apparaître des éclats de sens, c'est véritablement un engagement profond d'écrivain.
C'est révoltant.
Non, mais 6 mois de coma, ça donne des excuses tout de même.
Non, je parlais de cet endroit, de cette attente.
Bon. Cachot pour cachot, quelle différence. D'ici ou d'ailleurs, on ne s'évade que par la fenêtre de la mort et on ne sait jamais sur quoi elle donne. En bas, on savait qu'on mourrait, mais on tournait le dos à la voie ferrée, on refusait de voir le train. On pensait que le prochain ne serait pas pour nous. Ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable. Si, on devient gourmand, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie, je le savoure.
Comment peut-on se distraire ici ?
Ben justement, voici ce qui change tout. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. D'abord, on rencontre des tas de gens. Si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous pourrez constater que ça défile beaucoup. Chaque jour, ça rentre, ça sort, et puis, on papote. Là, comme nous faisons, je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent, vous non plus, mais nous papotons. Ça veut dire que j'existe, que vous aussi, que se tissent entre nous des rapports humains. C'est charmant, non?
Mais à quoi bon? Où cela vous mène-t-il d'entretenir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez sans doute jamais?
Si vous n'aimez fréquenter que ce qui dure, allez parler aux roches, aux pierres, aux montagnes. Mais je doute si elles sont aussi intransigeantes que vous. Elles vous adressent seulement la parole.
Touché.
Voyez comme la vie peut être amusante. Voyez comme le coma peut être gai.
Je suis déprimé. J'ai toujours été déprimé.
Un enfant gâté. Peut-être.
Pourquoi dites-vous cela?
Parce que vous n'êtes pas franchement laid. Vous n'avez pas l'air tout à fait pauvre. Un enfant qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés.
Vous méprisez?
Pas du tout. Je suis ravi que les riches aient aussi des problèmes.
Oh, je comptais pas vous faire pitié.
Le manque d'appétit. Ah, voilà peut-être le pire des mots. Naître repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié. Recevoir des baisers avant de les avoir demandés. Dépenser de l'argent avant d'avoir gagné. Ça ne rend pas très combatif. Nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens.
Vous m'avez compris.
Par contre, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour vous, pour nous, les ventres pleins comme les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens.
Pardon?
Parce qu'elle ne nous appartient pas.
Il faut qu'on me la retire pour que j'en voie le prix.
Ça a toujours été le problème du paradis. Paradis, ça n'est écrit qu'après la pancarte sortie.
Et nous avons donc pu vivre quelques instants immergés dans l'atmosphère de cet hôtel des deux mondes, un hôtel qui se trouve dans un espace imaginaire entre la vie et la mort, un espace dans lequel on se retrouve lorsque l'on entre dans un coma, comme les deux personnages interprétés par Rufus et Frédéric Tokars. Et nous avons donc pu assister à un extrait de cette scène grâce à une captation réalisée par la COPA, Coopérative de Production Audiovisuelle Théâtrale. Cet amour, cet intérêt pour le théâtre vous a valu vos premiers succès avec La Nuit de Valognes et surtout Le Visiteur, Éric-Emmanuel Schmitt. Mais ces premiers succès n'ont peut-être pas toujours été bien vécus par le monde de la littérature auquel vous appartenez aussi.
C'est vrai qu'étant apparu par le théâtre et étant reconnu et applaudi au théâtre immédiatement, j'entendais ce monde littéraire dire « Oh, il pourrait écrire des romans tellement il écrit bien ». Bon, finalement, je suis passé au roman, mais pas pour essayer de prouver que j'écrivais bien, parce que j'avais des romans à écrire. Mais voilà, cette hiérarchie d'ailleurs qu'on continue. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré un homme que j'aime profondément et avec qui j'aime tellement discuter, qui est André Comte-Sponville, et qui me dit « Tu fais du cinéma, pourquoi fais-tu du cinéma? C'est un art mineur ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie qui consiste à dire qu'il y a des écritures, par exemple l'écriture cinématographique, qui seraient inférieures aux autres ?»
Chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort. Et je vais chanter sur deux notes. Je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur. Sur quatre notes, je développe le thème. Et puis toute la gamme, je chante mon bonheur.
Bonheur, oui, c'est un bonheur aussi d'écouter Joséphine Baker grâce à la bande originale de votre film « Odette tout le monde », interprétée à l'écran par Catherine Fraud et Albert Dupontel. Oui, parce que « Odette tout le monde » adore le rythme, la voix de Joséphine Baker. Et votre film, d'ailleurs, tourne dans certaines scènes à la comédie musicale. Concernant tous vos centres d'intérêt, Éric-Emmanuel Schmitt, basés sur la création, la communication, est-ce que l'on ne pourrait pas prononcer les mots de gourmandisme, d'humanisme, d'amour des choses, des gens, de la vie ?
De désir, de volonté de ne pas être figé dans une réussite ou dans une attitude. Et puis la volonté d'ignorer qui je suis. Je crois que moi, c'est ce qui me guide.
Donc une angoisse qui se dessine quelque part ?
Non, je ne suis pas angoissée de ne pas savoir qui je suis. J'ai envie de faire un trajet. C'est le trajet et les chemins empruntés qui définiront, je dirais, a posteriori, ce que je suis. Mais je crois que quand on décide que son destin, c'est l'écriture, on décide de se quitter soi pour devenir les autres. Les autres personnages qui vont vivre sous votre plume, les autres moments de vie qu'on va fantasmer à travers l'écriture. Je crois que l'écriture, c'est l'abandon de soi au profit des autres. Parce qu'il faut que les personnages existent, il faut que les situations soient justes, soient vraies. Et donc, quand on est un écrivain comme ça, parce qu'on peut écrire sur soi et trouver tout en soi pour aller vers les autres. Il y a deux sortes d'écrivains, les écrivains centrifuges et les écrivains centripètes. Moi, voilà, je suis un écrivain centripète qui part à l'extérieur.
Et qui va vers l'universel.
Voilà. Et moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui je suis profondément. Ça m'intéresse de savoir comment sont les autres. Ça m'intéresse de savoir comment Pilate peut aborder la disparition d'un cadavre au 1er siècle, ce cadavre d'un juif qui s'appelle Jésus. Ça m'intéresse de savoir comment un homme peut devenir un monstre tel Adolf Hitler. Ça m'intéresse de savoir comment on peut être un épicier musulman dans une rue juive de Paris, dans Monsieur Ibrahim. Ça m'intéresse de penser en enfant de 10 ans affronté à une grave maladie comme dans Oscar et la Dame Rose. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de devenir tous les êtres que... Moi, dans ma vie, je n'ai pas le temps d'être réellement, mais que je vais être virtuellement. Et puis aussi, par là, abolir la distance entre moi et les autres en ayant une humanité plurielle, multiple, enrichie par l'écriture. En fait, j'écris pour la raison pour laquelle vous lisez, c'est-à-dire pour explorer.
Pour explorer votre jeune héros, Jun, le héros de votre livre « Le sumo qui ne pouvait pas grossir », ne sait pas, lui, encore explorer les voies qui pourraient le mener à la connaissance de soi, à l'équilibre, à l'harmonie. Et voici ce que Jun, votre jeune héros de 15 ans, confie avec vos mots, Éric-Emmanuel Schmitt, à vos lecteurs. Page 12 donc de ce livre « Le sumo qui ne pouvait pas grossir ». Il faut vous préciser qu'à l'époque, je souffrais d'allergies. J'étais devenu intolérant à la terre entière, y compris à moi. Un sujet captivant pour la médecine si elle s'était penchée sur mon cas. Je faisais de l'allergie universelle. Rien ne m'attirait, tout me répugnait. Vivre me provoquait des démangeaisons, respirer me mettait mes nerfs en plotte. Regarder alentour me poussait à m'éclater la cervelle contre les murs. Observer les humains me filait la nausée. Subir leurs conversations couvrait ma peau d'eczéma. Approcher leur laideur me secouait de frissons, les fréquenter m'ôtait le souffle. Quant à les toucher, à cette seule idée, je pouvais m'évanouir. Bref, j'avais organisé mon existence en fonction de mon infirmité. Adieu l'école, je n'avais pas d'amis. J'accomplissais mon commerce sans palabrer, je me nourrissais de produits fabriqués par l'industrie alimentaire, boîtes de conserve, soupes lyophilisées, en les mangeant isolées, coincées entre les planches d'un chantier. Et la nuit, j'allais coucher dans des lieux déserts, souvent malodorants, tant je tenais à dormir seul. Même penser me donnait des douleurs. Réfléchir, inutile. Me rappeler, j'évitais. Prévoir, j'évitais aussi. Je m'étais coupée du passé et de l'avenir, ou du moins, je tâchais. Parce que si bazarder ma mémoire ne m'avait pas posé de problème, tant elle charriait de méchants souvenirs, il m'était plus compliqué d'arrêter de rêver des scènes plaisantes. Je me l'interdisais pourtant. Sachant que j'allais morfler au réveil quand je réaliserais que c'était impossible.
Thank you.
Alors, cette exploration s'est intensifiée progressivement. Si je vous lis bien, entre 20 et 30 ans, vous nous confiez, j'ai ainsi mené une lutte intérieure pour harmoniser mon esprit. D'un côté, j'étais depuis l'enfance un écrivain spontané avec une vraie fantaisie, et de l'autre, un philosophe avec des capacités d'analyse, de synthèse. Alors, il a fallu concilier ces deux dimensions.
Ça a été un vrai combat. Il n'y avait ni ange ni bête, il y avait simplement deux hémisphères du cerveau. Celui qui abstrait, qui analyse, qui rationalise, qui décante. Et puis l'autre qui est au service de la vie, de la fantaisie, au service de l'être. Ces deux parties de mon cerveau n'arrivaient pas à fonctionner ensemble. Et donc j'écrivais des choses qui étaient soit extrêmement lyriques, de l'infra sous hypoclaudel, soit des choses extrêmement... analytique et sèche, c'est-à-dire l'écriture philosophique à laquelle j'étais formé. Et c'est sans doute pour ça que Diderot est arrivé au milieu de mes études, parce qu'il était déjà, lui, une synthèse et qu'il me montrait le chemin de la synthèse.
Il faut avoir vécu, avoir beaucoup pensé, réfléchi, oui, avant de donner un sens à son écriture.
Oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai écrit ma première pièce, par accident, j'avais 16 ans, c'était au lycée, on ne savait plus quoi jouer après l'Antigone d'Anouilh. Et j'ai lancé comme ça, tout à trac. Je reviens la semaine prochaine avec une pièce que je vais écrire ce week-end. Tout le monde a rigolé, mais en fait, je l'ai fait. J'ai écrit le premier acte d'une pièce qui s'appelait Grégoire ou Pourquoi les petits pois sont-ils verts, que le professeur du club théâtre a lu, a trouvé formidable. Et le week-end suivant, j'ai écrit la deuxième partie et on l'a jouée quelques semaines plus tard. Et en fait, c'était un défi comme ça, parce qu'on fait parfois des bonnes choses pour de mauvaises raisons. Et dans ce défi d'écriture, j'ai découvert que j'aimais profondément écrire et j'ai découvert surtout la réaction des autres, c'est-à-dire l'enthousiasme qui était provoqué dans le microcosme du lycée, entre les élèves, les profs, mes parents, les amis, qui tous étaient émerveillés par le don. Parce que voilà, ce que montrait cette pièce de 16 ans, c'est le don du dialogue. Et ce retour affectif m'a bouleversé. Je me suis dit, ah, mais en fait, j'avais découvert, je vais vous dire une chose, j'avais découvert une façon de me faire aimer, très plaisante, écrire. Et ça m'a bouleversé, surtout dans mon rapport avec mon père, qui était un homme très dur, très rigoureux, très sévère et très autoritaire, avec lequel j'étais perpétuellement en conflit. Et le jour où il a vu cette pièce, il était bouleversé, ému au plus profond de lui, parce que c'est un homme extrêmement sensible et intelligent, sous une carapace très dure. Et son regard sur moi a totalement changé. Et nos relations ont commencé à changer ce jour-là. Je crois qu'il y a eu aussi ça, qui a été un ancrage affectif dans la vie d'écrivain.
Ach, du schönes Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, lass die Uhren ihnen singen. Das klingelt so herrlich, das klingelt so schön. La 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 la. Wie hab ich so etwas gehört und gesehen? La 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 la.
Et je me suis dit, bah voilà, c'est bien ça finalement. Je vais écrire. Je rêvais toujours de composer, hein, mais je vais écrire. Je composerai, mais j'écrirai. Et puis après, je me suis mis à écrire d'autres pièces et je me suis rendu compte que c'était vide, que c'était cru, qu'à part le don du dialogue et des situations, il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait pas de vécu, j'avais 16 ans. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pensée, ma pensée était en train de se faire. Et donc là, j'ai vraiment pris conscience que ça prendrait plus de temps que je ne croyais. C'est-à-dire qu'il allait falloir vivre, qu'il allait falloir penser, qu'il allait falloir réfléchir avant d'avoir de nouveau rendez-vous avec l'écrivain que je pourrais éventuellement être un jour plus tard.
La souffrance compte dans le parcours d'un écrivain?
Oui, la souffrance ne m'a jamais fait abandonner l'idée d'être écrivain. Abandonner provisoirement, je décrochais un instant en me disant Oh, j'ai peut-être travaillé dans l'édition, à un autre poste, ou je serais très bien professeur à l'université. Après tout, qu'est-ce que j'ai besoin de me raconter que je vais écrire si je n'en suis pas capable ? Enfin, de temps en temps, je souffrais tellement que je décrochais, je me disais peut-être que je me trompe. Et en fait, c'est parce que le rendez-vous était différé. Le rendez-vous avec l'écrivain que j'étais, il devait arriver plus tard. Et puis comme dit un écrivain que j'adore, qui est Leonardo Sciascia, l'écrivain italien, arrive un jour où on ne peut plus lutter contre sa propre maturité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça y est, j'ai été mûr et une pièce comme ça m'est sortie complètement, je dirais miraculeusement, toute faite des doigts. Elle a coulé de mes doigts, c'était La Nuit de Valognes, ma première pièce. Et là, je me suis dit, tiens, ça, il y a des facilités, il y a un peu trop de démonstrations d'écriture, mais ça commence à ressembler à ce que je veux faire. Alors j'ai plongé et après, c'est allé très vite.
Dans l'écriture théâtrale, dites-vous, Éric-Emmanuel Schmitt, il y a tant de paramètres à intégrer que cela crée une sorte de liberté surveillée dans laquelle je m'épanouis pleinement, comme un poète qui s'exprimerait en alexandrin. Dans le roman, la liberté, dites-vous, de l'auteur est si vaste qu'elle m'effraie.
Oui, le roman me panique parce que j'ai peur que la liberté devienne licence et qu'on n'arrive pas à régler le sablier de l'écriture, c'est-à-dire qu'en face d'une scène, on se dit, bon, alors cette scène, par exemple, qui se passe dans un restaurant, est-ce qu'elle doit durer un paragraphe ? Est-ce qu'elle doit durer deux pages ? Est-ce qu'elle doit durer un chapitre ? Est-ce que tout le roman va s'y passer ? Ce questionnement constant qui vient de l'absence de contraintes, de limites. La scène vous donne des limites, la limite du temps, la limite des décors, la limite des acteurs que vous employez. La scène, c'est vraiment, ça vous corsette comme l'alexandrin. Et quelque part, ça vous oblige, dans un cadre précis, à trouver votre voie d'expression et votre vérité. Donc, au début, moi, la contrainte me libère et me fait trouver la note juste. Dans le roman, j'ai mis plus de temps. Et en plus, j'ignorais totalement quel romancier j'étais. Et ça, j'avoue que je n'ai découvert que de livre en livre quel romancier j'étais. Peut-être d'ailleurs, il y a plusieurs romanciers en moi, mais il n'y a jamais un romancier traditionnel. C'est-à-dire un roman naturaliste avec une à pâte épaisse, qui décrit les personnages, qui décrit les lieux. Ça n'existe pas chez moi. Je suis allusif, je suggère, je ne décris pas. J'inscris sur la page le minimum pour que l'imagination de mon lecteur soit titillée, pour que mon lecteur phosphore construise l'histoire avec moi, mais pas plus. Je ne lui impose rien. L'exhaustivité me paraît l'art d'ennuyer. Et j'ai vraiment le souci de juste planter dans l'esprit de mon lecteur les éléments qui sont nécessaires pour qu'il construise l'histoire avec moi et qu'il avance dans l'histoire. Donc ça, comme c'est une technique entre guillemets que je n'avais pas beaucoup rencontrée chez d'autres écrivains, il a fallu que je la découvre moi-même en écrivant. D'où le fait que l'écriture romanesque est venue un peu plus tardivement. Et que maintenant, j'avoue que, par exemple, avec le sumo qui ne pouvait pas grossir, mon dernier petit roman ou conte, si vous voulez, avec une écriture minimaliste, je dirais, en termes descriptifs, que certains critiques d'ailleurs ont défini comme un haïku romanesque, c'est-à-dire ces poèmes, vous savez, minuscules japonais. Voilà, maintenant, je commence à comprendre l'écrivain que je suis. Alors maintenant, j'ai compris, il va falloir éviter que je me parodie et que je m'imite.
Le jeune June, dont nous avons fait la connaissance tout à l'heure, le jeune sauvage révolté qui promène ses 15 ans dans les rues de Tokyo, loin d'une famille dont il refuse de parler, trouve sur son chemin un maître du sumo, Shomitsu. Vous écrivez, Éric-Emmanuel Schmitt, page 14 de ce livre intitulé « Le sumo qui ne pouvait pas grossir », le dialogue suivant. « Je vois un gros en toi. Que me prit-il ce lundi-là ? Je ne répondis pas, j'avais la tête plongée si profond dans un seau de considération sinistre que je n'avais même pas remarqué Shomitsu, son arrêt, son attention, sa phrase. Du coup, il répéta fort « Je vois un gros en toi. » Je levai l'œil vers lui. Il nota que je venais de l'entendre et insista. « Tu ne me crois pas lorsque je t'assure que je vois un gros en toi ? Écoute la tortue, hein, je me fous de ce que tu bafouilles, je ne veux parler à personne, ça m'épuise. Pigé ? Pourquoi ? Je fais de l'allergie. Allergie à quoi ? De l'allergie universelle. Depuis quand ? Les allergies, on prétend que ça vient d'un coup. Hop, soudain un matin, tu te réveilles, tu te retrouves allergique. Belle niaiserie ça. Chez moi, l'allergie, elle est venue progressivement. Je suis incapable de dater le début. J'ai juste conscience d'avoir été autre avant, il y a très longtemps. « je vois », murmura-t-il d'un ton de connaisseur. « Non, tu vois rien. Personne ne me comprend. Toi encore moins. Tout ce que tu sais voir, toi, c'est ce qui n'existe pas. Ton allergie ?»« Non, andouille, le gros en moi. » Exténué, je venais de causer davantage qu'en 6 mois. Pour en finir avec lui, je relevais mon pantalon de survêtement. « Regarde mieux la tortue. J'ai les genoux plus larges que les cuisses. » À cette époque-là, j'étais fière de mes genoux. Tant ils étaient laids, disproportionnés par rapport à mon corps. Comme je me haïssais, je ne supportais de moi que ce qui m'apparaissait monstrueux. Presque inconsciemment, j'avais développé une coquetterie à l'envers. Une coquetterie attachée à mes défauts, mon rachitisme, mes genoux cagneux et ma pomme d'Adam proéminente. « Tu vois, Pépé, j'ai le look poulet. Articulation épaisse, pas de chair autour. » Shomitsu approuva du chef. « Cette solide consistance osseuse me confirme mon intuition, » s'exclama-t-il. « Il y a un gros qui sommeille en toi. Faut le réveiller, le nourrir, qu'il s'épanouisse. Stop, je ne vois pas l'intérêt de devenir gros. »« Ah non, tu te préfères squelettique. Tu t'aimes maigre sans doute. »« Je me vomis, t'as pas entendu ? Je fais de l'allergie universelle. C'est nébuleux ce que je raconte. » Ma bouche avait bavardé toute seule. Je mordis mes lèvres pour la retenir de continuer. « Pourquoi est-ce que je me confiais à cet épouvantail ? Que m'arrivait-il ? Une crise de sincérité ? Comme si l'allergie chronique ne m'embêtait pas assez. Une crise de sincérité ? » Il me tendit un ticket. « Tiens, viens assister au spectacle. » Sans analyser, je repoussai sa main, car j'éprouvais une répugnance instinctive en faire ce qui ressemblait à de la générosité. « Non, tu refuses, or tu ne sais pas ce que je t'offre. Je n'en veux pas. » « Dommage, ce sera une compétition superbe. » « Compétition de quoi ?» De sumo. Pourquoi avez-vous écrit J'écris des romans comme un vrai conteur. C'est important de raconter une histoire, oui, aux autres.
D'ailleurs, ce mot conteur, il revient de plus en plus quand les autres parlent de moi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. On me disait toujours qu'au fond, mais tout ce que j'écrivais relevait de la logique du conte. C'est-à-dire, d'abord, j'ai un rapport vacillant avec le réel. Je ne suis jamais tellement réaliste. Et ensuite, il y a cet aspect, il était une fois, et puis le récit doit dégager un sens, comme dans un conte. Et puis, le récit décrit le réel au minimum, comme dans un conte. Donc, comme j'avais poussé, moi, dans le roman naturaliste, impressionné au-delà du possible par Balzac, par Dostoïevski, c'est pas le naturalisme, mais c'est une patte romanesque extrême. Ensuite, qu'un des grands bouleversements de ma vie, ça avait été la lecture de Proust. Je voyais vraiment pas ce que j'avais à faire dans la prose romanesque. Et donc, c'est par le biais du conte, de cette écriture qui ressemble en fait plus à un conte et qui en fait rejoint mes grandes passions, qui sont les écrivains du XVIIIe siècle, Diderot et Voltaire, que...
C'est peut-être comme à l'image de la vie, faite de réalisme et puis de virtuel.
C'est-à-dire que je pense que, c'est ce que disait Jean-Paul Sartre, toute technique est l'expression d'une métaphysique. Donc, au fond, quand la pensée devient claire, la technique d'expression se met au service de cette pensée et devient précise et claire aussi. Mon premier mode d'expression, ça a été le théâtre, parce que le théâtre étant débat, dialogue, il correspondait à ma forme de pensée, qui est profondément comme ça, là, tout en tension, en opposition, en dialogue et en interrogation. Et le roman, qui n'est pas une forme de dialogue et d'interrogation, je n'avais pas rendez-vous avec lui tant que je n'ai pas compris comment je devais écrire des romans. C'est-à-dire, voilà, des éclats de sens dans la nuit, de l'humain qui triomphe de l'inhumain, et une vocation humaniste qui s'affirme à travers le récit. Complètement. Je crois que, voilà, quand j'ai eu 16 ans, que j'ai écrit ma première pièce et que j'ai tenté d'écrire la deuxième et que je me suis rendu compte que j'étais une cloche vide, qui n'avait rien vécu, qui n'avait pas de légitimité pour prendre la plume, sauf prouver une virtuosité technique, et ça me paraissait quand même un petit peu vain. Voilà, je me suis donné rendez-vous avec la vie. Ce qu'il y a, c'est que le rendez-vous le plus beau, c'était le plus inattendu. Le rendez-vous le plus beau, c'était effectivement dans le désert, au Sahara, où je suis allé en 1989, j'avais 29 ans. Et j'y suis allé pour des raisons totalement hétérogènes à la métaphysique. C'était un voyage de sportif, en fait. C'était un trekking, une marche. Et puis, je me suis perdu dans le désert. J'ai passé plus d'une trentaine d'heures absolument perdu, isolé, sans sac, sans vivre, sans rien à boire, rien pour me protéger du froid pendant la nuit. Voilà, j'avais tout perdu, mais en même temps, j'ai rencontré quelque chose d'essentiel, qui est la confiance, la foi. C'est-à-dire, sous les étoiles, j'ai vraiment passé une nuit mystique. Au lieu que la peur m'envahisse, ça a été une foi dans le mystère. Donc ça, je pense que c'était la chose la plus inattendue pour moi, qui était de culture athée et de famille athée et de trajet athée. C'était une chose qui m'a laissé, je dirais, pas sans voix, mais sans mots, d'abord. Et peut-être qu'il a fallu un écrivain qui trouvait les mots pour cette voix nouvelle, c'est parce que tout ce que j'ai écrit date d'après cette expérience du désert. Et d'ailleurs, le thème de la nuit, le thème de la rencontre et de l'illumination est, si on regarde bien, absolument présent partout, dans tous les livres que j'écris.
Emmanuel Schmitt, pourquoi avez-vous dit ou écrit un jour « Un rapport difficile à son corps peut vous transformer en un écrivain » C'est ce que je crois.
Oui, je crois que je suis devenu écrivain parce que, et surtout écrivain de théâtre, parce que j'avais l'impression que mon corps racontait une autre histoire que celle que moi je voulais raconter. C'est-à-dire que quand j'étais petit, les gens me demandaient « Mais d'où es-tu ?» Alors, je répondais « De Lyon ». « Non, mais tes parents, ils sont d'où ?» Je répondais « De Lyon. Oui, mais avant, d'Alsace. » Et en fait, ce qu'on voulait me faire dire, c'est que j'avais un type métissé et qu'il cherchait l'origine de ce métissage. Et moi, je n'ai pas la réponse à cette origine. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet aspect métissé, j'ai cette peau qui devient immédiatement marron foncé dès que je m'approche d'un œuf dur. Voilà. Et donc, j'avais un corps qui racontait une histoire que moi, je ne pouvais pas raconter. Donc je crois que je me suis approché des acteurs, c'est-à-dire de ces corps-là, pour qu'eux racontent avec leur corps l'histoire que j'avais envie de raconter. Je crois qu'il y a eu comme ça un transfert, une substitution. Les plus culottés me disaient mais tu es métissé, tu as du sang noir, tu as quelque chose comme ça. Alors moi, par plaisanterie, déjà même très jeune, je répondais oui, j'ai un grand-oncle qui est archevêque en Afrique. Et les gens me regardaient en disant ce garçon est fou ou idiot. En fait, je bottais en touche. Mais ça ne m'a jamais gêné, ça ne m'a jamais vraiment profondément gêné. En plus, ça m'a rendu, à mon avis, très sensible à toutes sortes de différences et sans doute très alerté par rapport aux discriminations, parce que c'est vraiment une chose que je ne supporte pas, qu'on juge les gens en fonction d'une origine. Mais voilà, je pense que ça ne m'a pas affecté dans mon comportement social, mais peut-être que ça m'a affecté dans mon comportement d'écrivain. C'est-à-dire que ça m'a sans doute conduit directement au théâtre. Il fallait que d'autres corps que le mien racontent mes histoires, puisque moi, mon corps ne racontait pas mon histoire.
Et là, en l'occurrence, Eric Emmanuel Schmitt, ce sont les corps de l'actrice Catherine Arditi et des acteurs Bernard Deran et Rufus par lesquels votre théâtre va vivre quelques instants pour les auditeurs de Canal Académie. Voici en effet un extrait de votre pièce « L'hôtel des deux mondes », cet hôtel imaginaire comme suspendu entre la vie et la mort.
Vous en avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous.
Eh bien, pour entendre ce que j'entends...
De quoi parle-t-il ?
D'argent, de quoi voulez-vous ? Ils veulent tout vendre.
Vous leur laissez du bien ?
Évidemment, pour qui me prenez-vous ?
Oh ben moi, je serai pas la plus riche du cimetière.
Moi non plus.
J'ai tout bouffé.
Tout bu. Moi, j'ai jamais pu supporter la vision d'un portefeuille plein. Je dépensais. J'avais pas la mentalité pour devenir riche. Pas les ongles assez crochus.
Et pourtant, vous êtes malhonnête. Et généralement, on s'enrichit quand on est malhonnête.
Ça, vous le savez mieux que moi.
Pardon.
Je lis la presse, monsieur le président Delbecq. Je n'ai pas oublié le fameux scandale des fausses factures Delbecq.
Pure calomnie.
L'étrange attribution des marchés Delbecq.
Ragot politique. Ah, je n'accepte pas d'être tancé par un devin de fête foraine.
Chez moi, la malhonnêteté est gravée sur la plaque. Une profession de foi, loyale, irréprochable. Et imaginez tout d'un coup que je raconte la vérité. Non, madame, je ne vois pas votre avenir dans les cartes. Mais vu la figure que vous vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous vous adressez au moindre bipède chaussé, je suis à peu près certain que vous ne rencontrerez plus jamais l'amour. Mes clients me paient. Mais ils me paient pourquoi ? Pour que je leur fasse plaisir. Pour, en sortant de mon salon, avoir encore envie de vivre. Éprouver de l'espoir ce soir, de l'entrain demain. Je suis intègre, moi, monsieur. Si par hasard, j'ai réellement un pressentiment, comme il m'arrive parfois en reniflant la mort sur un client, je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous, monsieur le président, vous prenez l'allure de la respectabilité pour mener vos magouilles et vous enrichir aux dépens des autres. Oh !
Je retourne dans ma chambre. Je préfère encore écouter comment mes lavettes de fils veulent dépenser mon argent.
Éric Emmanuel Schmitt, vous avez confié « Je m'étais retenu d'écrire des romans, je voulais d'abord m'affirmer comme auteur de théâtre. »
Il m'a toujours semblé que la noblesse, c'était d'écrire pour les planches. Je ne sais pas pourquoi. Alors la noblesse, ça ne veut rien dire, c'est ridicule.
D'où vous vient ce goût pour le théâtre ?
Oh, d'une première fois, j'avais 10 ou 11 ans. Maman me dépose avec ma sœur au Théâtre des Célestins à Lyon pour voir Cyrano de Bergerac. C'était tellement un grand succès qu'elle n'avait pas pu avoir de place. Cyrano est toujours un succès. Et elle avait préféré se sacrifier pour que nous découvrions, ma sœur et moi, Cyrano. L'interprète, c'était Jean Marais. Voilà, je suis tombé dans la marmite, comme Obélix dans la potion magique. C'est-à-dire que cette première fois a été vraiment décisive. À savoir que j'ai d'abord été fasciné par les décors en trompe-l'œil, qui avaient vraiment l'air d'être en trois dimensions, et tout d'un coup, on découvrait qu'ils étaient qu'en deux dimensions, que c'était des toiles peintes, parce qu'un acteur rentrait dans le décor ou en sortait, et tout d'un coup, l'ouverture ou la fermeture de la porte provoquait des ondes sur la toile qui révélaient sa nature bidimensionnelle. Et donc ça me fascinait, parce que c'était l'artifice assumé. Et puis très rapidement, je me suis passionné pour cette histoire. Je me suis passionné pour cette histoire, c'est-à-dire pour ce Cyrano, qui n'arrive pas à croire qu'on l'aime. En fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai dû me transposer dans Cyrano. C'est-à-dire que peut-être la question qu'on me posait, à savoir d'où es-tu exactement, que raconte ton corps, quelle histoire, c'est-à-dire mon appendice nasal, moi, c'était une sorte de métissage que je ne connaissais pas. Donc forcément, j'ai dû m'identifier au nez de Cyrano et à son complexe physique. Mais c'est pas, à mon avis, l'identité avec Cyrano qui m'a touché, c'est plutôt sa différence. C'est-à-dire que Cyrano, c'est quelqu'un qui ne croit pas qu'on peut l'aimer. Moi, j'étais un petit garçon très aimé et qui ne doutait pas d'être aimé. Et tout d'un coup, j'étais bouleversé par un homme qui n'arrivait pas à croire qu'on l'aimait. Et j'avais envie de lui crier comme au guignol. Mais si, c'est Roxane, elle t'aime. Au fond, c'est toi qu'elle aime, c'est pas Christian. Et j'ai bien vu qu'on ne le faisait pas, les adultes se taisaient. Et voilà, j'ai été bouleversé, je me suis mis à pleurer. Et je crois que c'était la première fois que je pleurais sur quelqu'un d'autre que moi.
Vos premières larmes altruistes.
Oui, des larmes fraternelles, des larmes, je dirais, philanthropiques, des larmes d'un homme pour un autre homme différent. Et ça, je ne connaissais pas, et c'était chaud comme expérience, et c'était fort. Évidemment, j'avais honte parce que je pensais que j'étais le seul à pleurer. J'avais l'impression que pleurer, c'était comme de faire pipi sur soi. C'est une chose qu'il ne fallait pas faire et que j'étais le seul à le faire. Et puis tout d'un coup, à la fin du spectacle, la lumière est revenue et j'ai vu que les adultes autour de moi avaient les yeux rouges. Et je me suis dit, mais c'est magique cet endroit-là, c'est extraordinaire. Il y a 800 adultes comme ça qui sont émus ensemble, qui applaudissent ensemble et qui pleurent ensemble. J'étais transporté. Et sur le pas de la porte du théâtre, sur les escaliers qui descendaient du théâtre des Célestins, ma mère nous attendait et je lui ai dit « Je veux faire ça plus tard ». Alors elle me dit quoi ? Je lui ai dit « Je veux faire le monsieur qui a fait pleurer tout le monde ». Et elle me dit « Ah bon, tu veux être acteur comme Jean Marais ?» Et je lui dis « Non, Edmond Rostand ». Il m'avait semblé que celui qui avait fait pleurer tout le monde, c'était l'auteur, parce qu'il avait inventé une histoire qui était bouleversante. Et voilà, et le lendemain, maman m'achetait Cyrano de Bergerac, que j'apprenais par cœur, surtout la tirade finale. Combien de fois je suis mort dans ma salle de jeu en disant mon panache. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire tous les petits classiques qu'il y avait à la maison, les petits classiques consacrés au théâtre. C'est-à-dire, je me suis mis à lire Molière. Molière, je le sais quasiment par cœur. C'est presque un lait de naissance, en tout cas un lait de naissance dramatique. Et puis Shakespeare, mes parents n'arrivaient pas à croire que je lisais Shakespeare à 11-12 ans. Mais oui, je lisais les pièces historiques de Shakespeare avec passion. Je trouvais ça extraordinaire. Et voilà, l'amour du théâtre s'est installé pour toujours dans ma vie. Je l'ai oublié de temps en temps. Mais c'est tout le temps revenu.
Mais par rapport à cette très belle expérience de l'enfance, vous avez écrit une très belle phrase. Le théâtre a toujours été ça pour moi, l'intérêt pour l'autre et la réflexion sur la condition humaine.
Oui, je crois que vraiment le théâtre pour moi est un lieu humaniste. C'est-à-dire un lieu où les hommes se rassemblent, sont émus ensemble, se rendent compte qu'ils sont différents parce que sur scène il y a des personnages tellement plus excessifs que nous ou tellement plus singuliers. Mais tout en se rendant compte qu'ils sont différents, ils fraternisent. Donc pour moi, vraiment, le théâtre, c'est vraiment le lieu où l'humain se réfléchit. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, le cinéma joue aussi ce rôle. C'est-à-dire que les gens apprennent à aimer au cinéma, pas seulement parce qu'ils voient techniquement comment les acteurs s'embrassent, mais ils apprennent une grande partie du comportement humain dans la représentation de la vie qu'est le cinéma et que, à d'autres époques, et en tout cas pour moi dans mon enfance, le théâtre. Et donc, je crois véritablement que c'est un lieu où l'homme s'invente, se reconnaît. C'est vraiment un lieu philosophique pour moi, le théâtre.
Quand le pont a-t-il été jeté entre le dramaturge et le romancier que vous êtes, Éric-Emmanuel Schmitt ?
En fait, je crois que j'ai toujours voulu écrire des romans et écrire du théâtre, mais que, comme le théâtre m'a accueilli à bras ouverts dès mes débuts, j'ai privilégié le théâtre. J'ai écrit pendant quelques années les 6 ou 7 pièces que j'avais déjà dans la tête. Et donc, j'ai fait une pièce par an dans les années 90, en mettant de côté mes projets romanesques, sauf un, mon premier roman. Voilà, parce que le théâtre m'avait ouvert les bras, il les avait resserrés sur moi. Et j'étais trop content d'être accepté, parce que je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire du théâtre si je n'avais pas été joué. Et surtout, je ne sais pas si j'aurais progressé dans l'art théâtral si je n'avais pas été joué. Parce que quand on est joué, on apprend à mettre moins de choses dans le texte, à dégraisser un peu l'action, à se rendre compte de la puissance de jeu de l'acteur qui rend inutile certains mots. Bien sûr, pour écrire des pièces de théâtre, il faut d'abord être doué pour le théâtre. Mais après, c'est le théâtre qui vous apprend à vous améliorer. Donc voilà, le théâtre était là, j'étais reconnu, j'étais fêté au théâtre. Et le roman me faisait peur. Parce que j'y réservais certains sujets, comme l'évangile selon Pilate, c'est-à-dire la figure du Christ, ou la part de l'autre, la figure du mal, qui est Adolf Hitler. Donc c'était des grands rendez-vous à la fois philosophiques et romanesques. Et j'avais besoin peut-être de prendre un peu de recul par rapport à ces grands sujets. Une fois que j'ai décidé de plonger dans le roman, je m'y suis ébroué et j'ai jamais quitté la piscine.
Pourquoi certains peuvent-ils affirmer, dire que vos romans sont en marge du genre romanesque et que votre écriture déroute ?
Je suis assez content qu'on dise ça. Parce que moi, je ne sais pas faire un roman romanesque et en plus, je n'ai pas envie de le faire. J'aime en lire, mais je ne sais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, le roman doit être accompagné d'un questionnement, doit accompagner la recherche du sens, doit mettre en jeu un dispositif philosophique. Et voilà, mes petits romans comme mes gros romans sont toujours des dispositifs philosophiques qui permettent la réflexion.
J'ai relevé aussi une autre très belle phrase. J'essaie de trouver la parole juste à écrire sans artifice. Une écriture, pour moi, c'est une parole.
Oui, j'écris en pensant que cette parole va être entendue. Je n'écris pas pour me libérer, je n'écris pas pour me soulager, je n'écris pas pour me faire plaisir. C'est beaucoup plus important que de me faire plaisir. J'écris pour communiquer avec les autres. Communiquer avec les autres sur des sujets qui me paraissent essentiels, en essayant de les divertir. Parce qu'il faut intéresser les gens, et en essayant éventuellement de les émouvoir et de les faire réfléchir.
Éric-Emmanuel Schmitt, merci d'avoir participé à ce temps de parole, de réflexion autour des micros de Canal Academy.
Merci.
Vous venez donc d'écouter la première des 4 émissions consacrées à l'écrivain, auteur, metteur en scène, Éric-Emmanuel Schmitt, Grand Prix du théâtre de l'Académie française.